Chapitre 16. Les interrogatoires. Dernier espoir perdu. Pendant que M. de Crosne causait ainsi avec Cagliostro, M. de Breteuil se présentait à la Bastille de la part du roi pour interroger M. de Rohan. Entre ces deux ennemis, l'entrevue pouvait être orageuse. M. de Breteuil connaissait la fierté de M. de Rohan. Il avait tiré de lui une vengeance assez terrible pour se tenir désormais à des procédés de politesse. Il fut plus que poli. M. de Rohan refusa de répondre. Le garde des Sceaux insista, mais M. de Rohan déclara qu'il s'en rapporterait aux mesures que prendraient le Parlement et juge. M. de Breteuil dut se retirer devant l'inébranlable volonté de l'accusé. Il fit appeler chez lui Madame de Lamotte, occupée à rédiger des mémoires. Elle obéit avec empressement. M. de Breteuil lui expliqua nettement sa situation, qu'elle connaissait mieux que personne. Elle répondit qu'elle avait des preuves de son innocence, qu'elle fournirait quand besoin serait. M. de Breteuil lui fit observer que rien n'était plus urgent. Toute la fable que Jeanne avait composée, elle la débita. C'était toujours les mêmes insinuations contre tout le monde, la même affirmation que les faux reprochés émanaient, elle ne savait d'où. Elle aussi déclara que le Parlement étant saisi de cette affaire, elle ne dirait rien d'absolument vrai qu'en présence de Monsieur le Cardinal et d'après les charges qu'il ferait peser sur elle. Monsieur de Breteuil alors lui déclara que le Cardinal faisait tout peser sur elle. « Tout, dit Jeanne, même le vol ?»« Même le vol. » « Veuillez faire répondre à Monsieur le Cardinal, dit froidement Jeanne, que je l'engage à ne pas soutenir plus longtemps un mauvais système de défense. » Et ce fut tout. Mais Monsieur de Breteuil n'était pas satisfait. Il lui fallait quelques détails intimes. Il lui fallait, pour sa logique, l'énoncé des causes qui avaient amené le Cardinal à tant de témérité envers la reine à tant de colère contre le Cardinal. Il lui fallait l'explication de tous les procès-verbaux recueillis par M. le comte de Provence et passés à l'état de bruit public. Le garde des Sceaux était homme d'esprit, il savait agir sur le caractère d'une femme. Il promit tout à Madame de Lamotte si elle accusait nettement quelqu'un. « Prenez garde, lui dit-il, en ne disant rien, vous accusez la reine. Si vous persistez en cela, prenez garde, vous serez condamné comme coupable de lèse-majesté. C'est la honte, c'est la hart. »« Je n'accuse pas la reine, dit Jeanne, mais pourquoi m'accuse-t-on ? Accusez alors quelqu'un, dit l'inflexible Breteuil, vous n'avez plus que ce moyen de vous débarrasser vous-même. » Elle se renferma dans un prudent silence et cette première entrevue d'elle et du garde des Sceaux n'eut aucun résultat. Cependant, le bruit se répandit que des preuves avaient surgi, que les diamants s'étaient vendus en Angleterre, où M. de Villette fut arrêté par les agents de M. de Vergennes. Le premier assaut que Jeanne eut à soutenir fut terrible. Confrontée avec le retour qu'elle devait croire son allié jusqu'à la mort, elle l'entendit avec terreur avouer humblement qu'il était un faussaire, qu'il avait écrit un reçu des diamants, une lettre de la reine, falsifiant à la fois les signatures des joailliers et celles de sa majesté. Interrogé par quel motif il avait commis ces crimes, il répondit que c'était sur la demande de Madame de Lamotte. Éperdue, furieuse, elle nia, elle se défendit comme une lionne, elle prétendit n'avoir jamais vu ni connu ce monsieur Retaux de Villette. Mais là encore, elle reçut deux rudes secousses, deux témoignages l'écrasèrent. Le premier était celui d'un cocher de fiacre trouvé par M. de Crosne, qui déclarait avoir mené, au jour et à l'heure cité par Retaux, une dame vêtue de telle façon rue Montmartre. Cette dame, s'entourant de tant de mystères, qui pouvait-elle être prise par le cocher dans le quartier du Marais, sinon Madame de Lamotte, qui habitait rue Saint-Claude? Et quant à la familiarité qui existait entre ces deux complices, comment la nier quand un témoin affirmait avoir vu, la veille de la Saint-Louis, sur le siège d'une chaise de poste d'où était sortie Madame de Lamotte, Monsieur de Retaux, reconnaissable à sa mine pâle et inquiète? Le témoin était un des principaux serviteurs de M. de Cagliostro. Ce nom fit bondir Jeanne et la poussa aux extrêmes. Elle se répandit en accusations contre Cagliostro, qu'elle déclarait avoir, par ses sortilèges et ses charmes, fasciné l'esprit du cardinal de Rohan, auquel il inspirait ainsi des idées coupables contre la majesté royale. Là était le premier chaînon de l'accusation d'adultère. Monsieur de Rohan se défendit en défendant Cagliostro. Il nia si opiniâtrement que Jeanne, exaspérée, articula pour la première fois cette accusation d'un amour insensé du cardinal pour la reine. Monsieur de Cagliostro demanda aussitôt et obtint d'être incarcéré pour répondre de son innocence à tout le monde. Accusateur et juge s'enflammant, comme il arrive au premier souffle de la vérité, l'opinion publique prit immédiatement cause pour le cardinal et Cagliostro contre la reine. Ce fut alors que cette infortunée princesse, pour faire comprendre sa persévérance à suivre le procès, laissa publier les rapports faits au roi sur les promenades nocturnes, et en appelant à monsieur de Crosne, le somma de déclarer ce qu'il savait. Le coup, habilement calculé, tomba sur Jeanne et faillit l'anéantir à jamais. L'interrogateur, en plein conseil d'instruction, somma monsieur de Rohan de déclarer ce qu'il savait de ses promenades dans les jardins de Versailles. Le cardinal répliqua qu'il ne savait pas mentir et qu'il en appelait au témoignage de madame de Lamotte. Celle-ci nia qu'il y eût jamais eu des promenades faites de son aveu ou de sa connaissance. Elle déclara menteur les procès-verbaux et relations qu'il a dénoncés comme ayant paru au jardin, soit en compagnie de la reine, soit en compagnie du cardinal. Cette déclaration innocentait Marie-Antoinette s'il eût été possible de croire aux paroles d'une femme accusée de faux et de vol. Mais venant de cette part, la justification semblait être un acte de complaisance et la reine ne supporta pas d'être justifiée de la sorte. Aussi, quand Jeanne cria plus fort qu'elle n'avait jamais paru de nuit dans le jardin de Versailles et que jamais elle n'avait rien vu ou su des affaires particulières à la reine et au cardinal, à ce moment, Oliva parut, vivant témoignage qui fit changer l'opinion et détruisit tout l'échafaudage de mensonges entassés par la comtesse. Comment ne fut-elle pas ensevelie sous les ruines? Comment se releva-t-elle plus haineuse et plus terrible? Nous n'expliquons pas seulement ce phénomène par sa volonté, nous l'expliquons par la fatale influence qui s'attachait à la reine. Oliva confrontée avec le cardinal, quel coup terrible! Monsieur de Rohan, s'apercevant enfin qu'il avait été joué d'une manière infâme, cet homme plein de délicatesse et de nobles passions, découvrant qu'une aventurière associée à une fripome l'avait conduit à mépriser tout haut la reine de France, une femme qu'il aimait et qui n'était pas coupable. L'effet de cette apparition sur monsieur de Rohan serait, à notre gré, la scène la plus dramatique et la plus importante de cette affaire si nous n'allions, en nous rapprochant de l'histoire, tomber dans la fange, le sang et l'horreur. Quand monsieur de Rohan vit Oliva, cette reine de carrefour, et qu'il se rappela la rose, la main serrée et les bains d'Apollon, il pâlit et eut répandu tout son sang aux pieds de Marie-Antoinette s'il l'eût vue à côté de l'autre en ce moment. Que de pardon, que de remords s'élancèrent de son âme pour aller avec ses larmes purifier le dernier degré de ce trône où un jour il avait répandu son mépris avec le regret d'un amour dédaigné. Mais cette consolation même lui était interdite, mais il ne pouvait accepter l'identité d'Oliva sans avouer qu'il aimait la véritable reine. Mais l'aveu de son erreur était une accusation, une souillure. Il laissa Jeanne nier tout, il se tut. Et lorsque M. de Breteuil voulut, avec M. de Crosne, forcer Jeanne à s'expliquer plus longuement, le meilleur moyen, dit-elle, de prouver que la reine n'a pas été promenée dans le parc la nuit, c'est de montrer une femme qui ressemble à la reine et qui prétend avoir été dans le parc. On la montre, c'est bien. Cette infâme insinuation eut du succès, elle infirmait encore une fois la vérité. Mais comme Oliva, dans son inquiétude ingénue, donnait tous les détails et toutes les preuves, comme elle n'omettait rien, comme elle se faisait bien mieux croire que la comtesse, Jeanne eut recours à un moyen désespéré, elle l'avoua. Elle avoua qu'elle avait mené le cardinal à Versailles, que son éminence voulait à tout prix voir la reine, lui donner l'assurance de son respectueux attachement. Elle l'avoua parce qu'elle sentit derrière elle tout un parti qu'elle n'avait pas si elle se renfermait dans la négative. Elle l'avoua parce qu'en accusant la reine, c'était se donner pour auxiliaire tous les ennemis de la reine, et ils étaient nombreux. Alors, pour la dixième fois dans cet infernal procès, les rôles changèrent. Le cardinal joua celui d'une dupe, Oliva celui d'une prostituée sans poésie et sans sens, Jeanne celui d'une intrigante. Elle n'en pouvait choisir de meilleure. Mais comme pour faire réussir ce plan ignoble, il fallait que la reine jouât aussi un rôle, on lui donna le plus odieux, le plus abject, le plus compromettant pour la dignité royale, celui d'une coquette étourdie, d'une grisette qui trame des mystifications. Marie-Antoinette devint Dorimène, conspirant avec Frosine contre Monsieur Jourdain, cardinal. Jeanne déclara que ces promenades étaient faites de l'aveu de Marie-Antoinette, qui, cachée derrière une charmille, écoutait, en riant à en mourir, les discours passionnés de l'amoureux monsieur de Rohan. Voilà ce que choisit pour son dernier retranchement cette voleuse qui ne savait plus où cacher son vol. Ce fut le manteau royal fait de l'honneur de Marie-Thérèse et de Marie Leczinska. La reine succomba sous cette dernière accusation, car elle n'en pouvait prouver la fausseté. Elle ne le pouvait parce que, poussée à bout, Jeanne déclara qu'elle publierait toutes les lettres d'amour écrites par Monsieur de Rohan à la reine, et qu'en effet elle possédait ces lettres brûlantes d'une passion insensée. Elle ne le pouvait parce que Mademoiselle Oliva, qui affirmait avoir été poussée par Jeanne dans le parc de Versailles, n'avait pas la preuve que quelqu'un écouta ou n'écouta pas derrière les charmilles. Enfin, la reine ne pouvait prouver son innocence parce que trop de gens avaient intérêt à prendre ses mensonges infâmes pour la vérité. À la façon dont Jeanne avait engagé l'affaire, il devenait impossible, on le voit, de découvrir la vérité. Convaincue irrécusablement par 20 témoignages émanant de personnages dignes de foi du détournement des diamants, Jeanne n'avait pu se décider à passer pour une voleuse vulgaire. Il lui fallait la honte de quelqu'un à côté de la sienne. Elle se persuadait que le bruit du scandale de Versailles couvrirait si bien son crime, à elle, comtesse de Lamotte, que, fût-elle condamnée, l'arrêt frapperait la reine avant tout le monde. Son calcul avait donc échoué. La reine, en acceptant franchement le débat sur la double affaire, le cardinal, en subissant son interrogatoire, juge et scandale, enlevait à leur ennemi l'auréole d'innocence qu'elle s'était plu adorer de toutes ses hypocrites réserves. Mais, chose étrange, le public allait voir se dérouler devant lui un procès dans lequel personne ne serait innocent, pas même ceux qu'absoudrait la justice. Après des confrontations sans nombre dans lesquelles le cardinal fut constamment calme et poli, même avec Jeanne, dans lesquelles Jeanne se montra violente et nuisible à tous, l'opinion publique en général et celle des juges en particulier se trouva formée irrévocablement. Tous les incidents ont été devenus à peu près impossibles, toutes les révélations étaient épuisées. Jeanne s'aperçut qu'elle n'avait produit aucun effet sur ses juges. Elle résuma donc, dans le silence du cachot, toutes ses forces, toutes ses espérances. De tout ce qui entourait ou servait M. de Breteuil, le conseil venait à Jeanne de ménager la reine et charger sans pitié le cardinal. Tout ce qui touchait au cardinal, famille puissante, juges partiaux pour la cause populaire, clergé fécond en ressources, le conseil venait à Madame de Lamotte de dire toute la vérité, de démasquer les intrigues de cour et de pousser le bruit à un tel point qu'il s'ensuivit un étourdissement mortel aux têtes couronnées. Ce parti cherchait à intimider Jeanne. Il lui représentait encore ce qu'elle savait trop bien, que la majorité des juges penchaient pour le cardinal, qu'elle se briserait sans utilité dans la lutte, et il ajoutait que peut-être, à moitié perdue qu'elle l'était, il valait mieux se laisser condamner pour l'affaire des diamants que de soulever les crimes de lèse-majesté, limon sanglant endormi au fond des codes féodaux, et qu'on n'appelait jamais à la surface d'un procès sans y faire monter aussi la mort. Ce parti semblait sûr de la victoire. Il l'était. L'enthousiasme du peuple se manifestait avec celui en faveur du cardinal. Les hommes admiraient sa patience et les femmes sa discrétion. Les hommes s'indignaient qu'il eût été si lâchement trompé. Les femmes ne le voulaient pas croire. Pour une quantité de gens, Oliva, toute vivante avec sa ressemblance et ses aveux, n'exista jamais, ou si elle existait, c'est que la reine l'avait inventée exprès pour la circonstance. Jeanne réfléchissait à tout cela. Ses avocats eux-mêmes l'abandonnaient, ses juges ne dissimulaient pas leur répulsion. Les Rohan la chargeaient vigoureusement, l'opinion publique la dédaignait. Elle résolut de frapper un dernier coup pour donner de l'inquiétude à ses juges, de la crainte aux amis du cardinal, du ressort à la haine publique contre Marie-Antoinette. Son moyen devait être celui-ci. Quant à la cour, faire croire qu'elle avait continuellement ménagé la reine et qu'elle allait tout dévoiler si on la poussait à bout. Quant au cardinal, il fallait faire croire qu'elle ne gardait le silence que pour hâter sa délicatesse, mais que, du moment où il parlerait, affranchi par cet exemple, elle parlerait aussi, et que tous deux, ils découvriraient à la fois leur innocence et la vérité. Ce n'était là réellement qu'un résumé de sa conduite pendant l'instruction du procès, mais il faut le dire, tout méconnu peut se rajeunir grâce à des assaisonnements nouveaux. Voici ce qu'imagina la comtesse pour rafraîchir ces deux stratagèmes. Elle écrivit une lettre à la reine, une lettre dont les termes seuls révèlent le caractère et la portée. « Madame, malgré tout ce que ma position a de pénible et de rigoureux, il ne m'est pas échappé une seule plainte. Tous les détours dont on a fait usage pour m'extorquer des aveux n'ont contribué qu'à me fortifier dans la résolution de ne jamais compromettre ma souveraine. Cependant, quelque persuadé que je sois, que ma constance et ma discrétion doivent me faciliter les moyens de sortir de l'embarras où je me trouve, j'avoue que les efforts de la famille de l'esclave, la reine appelait ainsi le cardinal au jour de leur réconciliation, me font craindre de devenir une victime. Un long emprisonnement, des confrontations qui ne finissent pas, la honte et le désespoir de me voir accusé d'un crime dont je suis innocente ont affaibli mon courage et je tremble que ma constance ne succombe à tant de coups portés à la fois. Madame peut d'un seul mot mettre fin à cette malheureuse affaire par l'entremise de Monsieur de Breteuil qui peut lui donner, aux yeux du ministre, le roi, la tournure que son intelligence lui suggérera sans que Madame soit compromise en aucune manière. C'est la crainte d'être obligée de tout révéler qui nécessite la démarche que je fais aujourd'hui, persuadée que Madame aura égard aux motifs qui me forcent d'y recourir et qu'elle donnera des ordres pour me tirer de la pénible situation où je me trouve. Je suis, avec un profond respect de Madame, la très humble et obéissante servante, signé comtesse de Valois de la Motte. Jeanne avait tout calculé, comme on le voit. Ou cette lettre irait à la reine et l'épouvanterait par la persévérance qu'elle dénotait après tant de traverses, et alors la reine, qui devait être fatiguée de la lutte, se déciderait à en finir par l'élargissement de Jeanne, puisque sa prison et son procès n'avaient rien amené. Ou, ce qui était bien plus probable, et ce qui est prouvé par la fin même de la lettre, Jeanne ne comptait en rien sur cette lettre, et c'est aisé à démontrer, car lancée ainsi dans le procès, la reine ne pouvait rien arrêter sans se condamner elle-même. Il est donc évident que jamais Jeanne n'avait compté que sa lettre dût être remise à la reine. Elle savait que tous ses gardiens étaient dévoués au gouverneur de la Bastille, c'est-à-dire à Monsieur de Breteuil. Elle savait que tout le monde en France faisait de cette affaire du collier une spéculation toute politique, ce qui n'était pas arrivé depuis les parlements de M. de Maupeou. Il est certain que le messager qu'elle chargerait de cette lettre, s'il ne la donnait au gouverneur, la garderait pour lui ou pour les juges de son opinion. Elle avait enfin disposé toute chose pour que cette lettre, en tombant dans des mains quelconques, y déposât le levain de la haine, de la défiance et de l'irrévérence contre la reine. En même temps qu'elle écrivait cette lettre à Marie-Antoinette, elle en rédigeait une autre pour le cardinal. « Je ne peux concevoir, monseigneur, que vous vous obstiniez à ne pas parler clairement. » Il me semble que vous n'avez rien de mieux à faire que d'accorder une confiance illimitée à nos juges. Notre sort en deviendrait plus heureux. Quant à moi, je suis résolu à me taire si vous ne voulez pas me seconder. Mais que ne parlez-vous? Expliquez-vous sur toutes les circonstances de cette affaire mystérieuse, et je vous jure de confirmer tout ce que vous aurez avancé. Réfléchissez-y bien, monsieur le cardinal, si je prends sur moi de parler la première et que vous désavouiez ce que je pourrais dire, je suis perdu, je n'échapperai pas à la vengeance de celle qui veut nous sacrifier. Mais vous n'avez rien à craindre de semblable de ma part, mon dévouement vous est connu, s'il arrivait qu'elle fût implacable, votre cause serait toujours la mienne, je sacrifierais tout pour vous soustraire aux effets de sa haine, où notre disgrâce serait commune. Post-scriptum, j'ai écrit à elle une lettre qui la décidera, je l'espère, sinon à dire la vérité, du moins à ne pas nous accabler, nous qui n'avons d'autre crime à nous reprocher que notre erreur ou notre silence. Cette lettre artificieuse fut remise par elle au cardinal dans leur dernière confrontation au grand parloir de la Bastille, et l'on vit le cardinal rougir, pâlir et frissonner en présence d'une pareille audace. Il sortit pour reprendre haleine. Quant à la lettre pour la reine, elle fut remise à l'instant même par la comtesse à l'abbé Lequel, aumônier de la Bastille, qui avait accompagné le cardinal au parloir et dévoué aux intérêts des Rohan. « Monsieur, lui dit-elle, vous pouvez, en vous chargeant de ce message, faire changer le sort de monsieur de Rohan et le mien. Prenez connaissance de ce qu'il renferme. Vous êtes un homme obligé au secret par vos devoirs. Vous vous convaincrez que j'ai frappé à la porte où nous puissions, monsieur le cardinal et moi, demander secours. » L'aumônier refusa. « Vous ne voyez que moi d'ecclésiastique, répliqua-t-il. Sa Majesté croira que vous lui avez écrit d'après mes conseils et que vous m'avez tout avoué. Je ne puis consentir à me perdre. » « Eh bien, dit Jeanne, désespérant du succès de sa ruse, mais voulant convaincre le cardinal par l'intimidation, dites à monsieur Doran qu'il me reste un moyen de prouver mon innocence, c'est de faire lire les lettres qu'il écrivait à la reine. » Ce moyen, je répugnais à en user, mais dans notre intérêt commun, je m'y résoudrais. En voyant l'aumônier épouvanté par ses menaces, elle essaya une dernière fois de lui mettre dans les mains sa terrible lettre à la reine. « S'il prend la lettre, se disait-elle, je suis sauvée, parce qu'alors, en pleine audience, je lui demanderai ce qu'il en a fait, et s'il l'a remise à la reine, est sommé d'y faire réponse. » S'il ne l'a pas remise, la reine est perdue, l'hésitation des Rohan aura prouvé son crime et mon innocence. Mais l'abbé Lequel eut à peine la lettre dans les mains qu'il la rendit comme si elle le brûlait. « Faites attention, dit Jeanne, pâle de colère, que vous ne risquez rien, car j'ai caché la lettre de la reine dans une enveloppe adressée à madame de Misery. » « Raison de plus, s'écria l'abbé, deux personnes sauraient le secret, double motif de ressentiment pour la reine. Non, non, je refuse. » Et il repoussa les doigts de la comtesse. « Remarquez, dit-elle, que vous me réduisez à faire usage des lettres de monsieur de Rohan. » « Soit, repartit l'abbé, faites-en usage, madame. » « Mais, reprit Jeanne, tremblante de fureur, comme je vous déclare que la preuve d'une correspondance secrète avec sa majesté fait tomber sur un échafaud la tête du cardinal, vous êtes libre de dire « Soit, je vous aurai averti. » La porte s'ouvrit à ce moment, et le cardinal reparut, superbe et courroucé, sur le seuil. « Faites tomber sur un échafaud la tête d'un Rohan, madame, répondit-il, ce ne sera pas la première fois que la Bastille aura vu ce spectacle, mais puisqu'il en est ainsi, je vous déclare, moi, que je ne reprocherai rien à l'échafaud sur lequel roulera ma tête, pourvu que je voie celui sur lequel vous serez flétri comme voleuse et faussaire. Venez, l'abbé, venez. » Il tourna le dos à Jeanne après ces paroles foudroyantes et, sortant avec l'aumônier, laissa dans la rage et le désespoir cette malheureuse créature qui ne pouvait faire un mouvement sans se prendre de plus en plus dans la fange mortelle où bientôt elle allait plonger tout entière.